Bonjour. Le vin, on le sait, est plurimillénaire, les archéologues ayant à ce jour retrouvé traces de fermentation de raisins datant d'environ 8000 ans quelque part en Géorgie. On sait aussi que le vin est assurément planétaire, cultivé et consommé sur les 5 continents et des centaines de pays. La France, dont nous vous parlons, fait partie bien sûr des territoires historiques et parmi les plus prestigieux du vignoble mondial, mais loin d'être la seule. À côté de nous, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler un peu plus à l'est, la Hongrie, la Roumanie, à l'autre bout du monde, l'Argentine, le Chili, l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Amérique du Nord. Mais que savons-nous au fond de ces vins? Combien de fois dans une vie d'œnophile avons-nous l'occasion réellement de les goûter? Eh bien, un homme s'est mis en tête de parcourir le globe avec cette idée folle de recenser les pays viticoles, d'en cartographier le vignoble et d'en recenser les cépages. Pendant 4 ans, il a parcouru 88 pays, visité des centaines de domaines et goûté des milliers de vins. Une aventure incroyable dont nous ne pouvions pas ne pas parler. Ce 73e épisode s'intitule Jean-Baptiste Ancelot, le Wine Explorer. Bienvenue dans la Terre à Boire. Et on se retrouve avec notre passionné passionnant Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Avec Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
Le patron du Wine Therapy. Et avec une invitée, on a deux invités aujourd'hui, on a une invitée en plateau, Leslie Brochot, maître d'accord.
Bonsoir.
Maître d'accord, c'est ta société, ton agence de communication dans le domaine du vin.
Exactement.
Et nous avons au téléphone l'homme dont il va être question, enfin surtout de ce qu'il a fait, peut-être un peu de lui aussi. Bonjour Jean-Baptiste Ancelot.
Bonjour Romain, bonjour à toute l'équipe.
Donc vous travaillez ensemble en fait, hein. Donc là c'est un peu nouveau, on a quelqu'un à distance, on a quelqu'un sur place, mais Leslie va nous concocter les accords et toi tu vas nous parler un peu de ce voyage incroyable qui a donné donc lieu à un livre qui s'appelle tout simplement Wine Explorers, le tour du monde du vin.
Le premier
tour du monde du vin. Qui est une somme hein, quand même, hein. C'est un truc qui pèse un petit peu son poids dans un joli format carré 30 par 30 là, mais qui, je ne sais pas si vous l'avez pesé, mais
plus lourd qu'une bouteille,
un certain nombre de pages. En tout cas, Leslie nous a apporté des vins, donc on va goûter ces vins, parler des vins, et puis tu vas nous parler du voyage. Mais la première question que j'ai envie de te poser, c'est d'où elle vient cette idée au départ?
C'est une très bonne question. Alors cette idée, à la base, ça vient d'une frustration. Quand j'étais étudiant dans le vin à Bordeaux, j'aimais bien me documenter sur ce qui se faisait un peu dans le monde au niveau du vin. Et en général, on trouvait de l'information sur 20-25 pays à peu près, entre ce qu'on appelle l'ancien monde et le nouveau monde. Et pas forcément plus d'infos que ça. Et du coup, la frustration, c'était de me dire, mais dis donc, il doit y avoir beaucoup plus de pays qui font du vin que ça, mais on n'en entend pas parler, ou c'est très difficile d'avoir des infos. Qu'est-ce qui se passe? Combien il y a d'acteurs au final? Voilà, une frustration de ne pas savoir un peu de quoi la planète vin était composée. Et du coup, je me suis amusé à faire des recherches pendant 2 ans, dans des livres, sur Internet, dans des bibliothèques, dans des vieux magazines, pour essayer de voir un petit peu quel pays pouvait faire du vin et sur quel continent. Et au final, en fait, on se rend compte qu'il y a à peu près 90 pays aujourd'hui qui sont producteurs, parfois tout petits, mais intéressants. Et l'idée, ça a été de me dire, mais tiens, et si on allait visiter tous ces pays pour rencontrer des vigneronnes et des vignerons et comprendre un petit peu ce qui se fait aux quatre coins du monde, pourquoi on y fait du vin, depuis quand, comment on le boit, qu'est-ce qu'on cultive, etc., etc. Donc un vrai travail de documentation et d'exploration que j'ai réussi à concrétiser, et cette frustration finalement s'est transformée en une belle opportunité.
Et le financement du coup, comment ça s'est passé? Ça fait quoi? C'est quoi? C'est 100 000 euros pour le... C'est 200 000 euros? C'est 300 000 euros? 500 000 euros? 1 million? Ce tour du monde.
Il nous a fallu en frais directs et indirects à peu près un demi-million d'euros, sachant que la moitié était dépensée en frais indirects, c'est-à-dire tout ce qui était collecte d'échantillons, puisqu'on avait un gros partenariat des Béchankers qui s'est amusé, entre guillemets, à rapatrier des échantillons vraiment du monde entier pour nous, et on les stocke à Charles de Gaulle dans un grand entrepôt pour créer une librairie.
Alors là on est déjà sur les... Parce que le projet, il est complexe et il a plusieurs dimensions. Il y a le voyage, il y a le livre et il y a la construction d'une offre commerciale qui est en train de prendre forme avec le lancement du site Le fait de recevoir des échantillons...
Je dirais même qu'elle est tentaculaire. Comme...
N'exagérons rien. Mais le fait de recevoir des échantillons du monde entier, là, c'est autre chose. Ce n'est pas le voyage pour découvrir du vin. C'est que, dès le départ, tu avais en tête d'en faire une entreprise.
Alors, complètement. Il y a plusieurs étapes dans le projet. C'était là la dimension un petit peu folle. C'est-à-dire que pour savoir de quoi on parlait et avoir au moins mis... un pied dans chaque pays, avoir cette vision un peu globale du monde du vin à 360 degrés, il fallait faire ces 4 ans de projet. Ça, c'était vraiment une première étape qui était indispensable. Comme le voyage s'est fait en 3 dimensions et que c'était énormément de temps, on travaillait, on n'était pas en vacances, hein, on travaillait vraiment sans se plaindre, hein, du lundi au dimanche, il fallait travailler en 3 dimensions parce que à chaque fois qu'on allait dans un pays où on passait à peu près en moyenne 3 semaines, on va dire, on était vraiment 100% connecté avec les vignerons qui nous invitaient. On passait à peu près 1 à 2 journées par domaine. Donc, il fallait essayer de comprendre l'univers dans lequel on était. Ça demande beaucoup d'énergie entre les prises de notes, les dégustations, les photos, etc. Donc, ça, c'était le moment présent. Et puis après, on essayait aussi de travailler dans le futur parce qu'il fallait planifier aussi tous les autres rendez-vous avec les autres domaines, les autres pays, etc., etc. C'était une vraie logistique où chaque rendez-vous était vraiment pris à l'avance. Et il y avait une notion de passé où, pour chaque pays voyagé, il y avait écriture d'articles, à la fois pour nous, aussi pour le Figaro Vin, parce qu'on avait un très beau partenariat pendant tout le projet avec le Figaro Vin. Donc, c'était vraiment un travail du lundi au dimanche qui ne permettait pas de se consacrer à l'après. Et il fallait aussi une certaine digestion. Quand on a beaucoup d'infos comme ça, il faut pouvoir les digérer. Donc, ces 4 ans de projet, une fois qu'ils ont été terminés, il m'a fallu 1 an pour édigérer et écrire le livre, qui était la 2e pierre à l'édifice. Et seulement à partir du moment où on avait le livre, qui était à la fois une carte de visite et en même temps un témoignage de toutes ces pérégrinations, là, on a pu commencer à envisager de l'importation, de la vente, peut-être une branche touristique par la suite, des bars à vin, etc., etc. Une multitude de projets, parce que le mot tentaculaire tout à l'heure me plaisait bien dans le sens où qui dit nombreuses tentacules dit ramification, et effectivement, on n'est pas que des vendeurs de vin aujourd'hui, c'est vraiment un projet multicanaux, et c'est ça aussi qui en fait d'une part la richesse, ça c'est le point positif, mais aussi qui peut être très complexe parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut potentiellement faire qu'il faut essayer de voir quelles sont les priorités. Voilà.
Alors j'ai lu le livre, j'ai pas tout lu, mais est-ce que la Bosnie-Herzégovine a été une belle découverte? Alors je dis ça parce que Leslie nous a ramené, je crois,
un
blanc de Bosnie. Mmh. Oui. Il n'y a pas eu de mauvaise découverte, en fait. C'est pas du tout
parler du vin,
diplomatique,
en fait,
que je vais faire. Ouais. Mais en gros, chaque pays avait son lot de belles rencontres. Il est arrivé de nombreuses fois, d'ailleurs, que les vins n'étaient pas forcément à la hauteur, mais que le contexte ou la rencontre humaine prenne le dessus.
Mmh. Donc, des fois, si on ne connaît pas le pays, c'est qu'il y a des raisons. Enfin, je dis ça.
Non, bah, justement.
Non,
pas
mais
forcément.
Je plaisante.
Oui. En fait, on se rend compte parfois que les vignerons ne font pas de vin depuis tant d'années que ça et ont besoin encore de temps pour
bien
apprendre.
Sûr, pour
après, effectivement, il est arrivé, comme au Gabon, que des terres sablonneuses trop acides ne soient pas forcément des terres fertiles. Donc, oui, c'est arrivé dans les deux cas. Mais pour revenir sur la Bosnie, très très belle découverte, pays qui fait du vin depuis très longtemps, qui a beaucoup de cépages endémiques. Quand on pouvait, on était vraiment en quête de ces nouveaux cépages pour nous, qui existent depuis longtemps mais qu'on ne connaissait pas, qui ont souvent des typicités, des goûts, des noms aussi imprononçables et des orthographes incroyables.
Je me lancerai pour prononcer le cépage et le nom du domaine.
Beaucoup de consonnes.
Bien
quoi,
respirer hein. Avant, faut bien respirer, puis après faut se lancer. Voilà, faut pas avoir peur. Mais non, la Bosnie, fantastique. Pays très complexe d'ailleurs, hein, juste à côté de la Croatie, où on fait du vin uniquement dans le sud, vers Mostar, qui est la 2e grande ville du pays, puisque le reste du pays est musulman, donc on a cette espèce d'ambivalence un petit peu qui est assez intéressante. Des gens très chaleureux. J'ai été invité à un tout petit mariage où il y avait 850 invités. Donc c'est ce genre d'atmosphère-là, en fait, où on se sent bien.
Je prends un peu le relais sur cette cuvée que je vous propose. Donc, c'est le domaine Birkitch. Ça fait 3 mois que je travaille sur la prononciation du domaine. Pour les plaies, c'est B-R-K-I-C. Donc, je vous invite à.
Oui, tu rajoutes des voyelles. Tu sais où ajouter des voyelles dans ce mot fait de consonnes.
Jane Birkitch.
Exactement. En général, Jane avant Birkitch. Un R, on peut mettre un
tout
E.
Tout à fait. Là, d'ailleurs, Jane Birkitch. Thomas Dutronc, on est dans la chanson française,
exactement.
Tout ça.
Exactement.
On t'écoute. Leslie.
Donc là, on déguste un vin blanc du cépage Jilavka, tu me corriges, hein, Jean-Baptiste, si je me trompe.
Ah bah là, mais elles sont parfaites, là, je veux dire, à un moment donné, je bois les paroles.
En millésime 2018. Et alors, Laurent, qui est à mes côtés, nous a, enfin, a commencé par me dire « Mais qu'est-ce qu'on va aller foutre en Bosnie ?» Et justement, bah, moi, on a eu envie avec Jean-Baptiste de vous faire voyager loin, très loin. Enfin, très loin, pas forcément en termes de kilomètres.
Pour le coup, c'est pas très loin à la Bosnie. Là. Dans le livre, il y a des destinations qui sont autrement plus exotiques.
C'est très loin en termes de vin et en termes de ce qu'on connaît et de ce qu'on a l'habitude peut-être de découvrir dans le monde, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de voyager en plus, hein, plus que jamais. Donc, ce vin, en fait, il est très particulier et moi, il m'intéresse parce que je l'ai goûté une première fois, puis une deuxième fois, pas du tout avec la même approche. Souvent, en fait, quand on goûte un vin, on le goûte à travers le prisme de ce qu'on connaît, avec en cherchant des liens, en cherchant des connivences qui nous rassurent. Et ce vin, ce vin bosniaque, la première fois que je l'ai goûté, j'ai rien compris. Il m'a complètement déstabilisée, j'étais perdue, je ne reconnaissais rien. Alors, est-ce qu'il faut chercher des choses qu'on connaît? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et j'ai eu du mal à le rencontrer quelque part. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que moi, dans l'aventure One Explorer, je suis aussi beaucoup sur la recherche des accords. Donc, justement, qu'est-ce qu'on fait avec un vin qu'on ne comprend pas? On va essayer de chercher des caractéristiques aromatiques ou des textures qui peuvent justement... soutenir le vin ou l'aider. Donc c'est pour ça que je vous ai apporté, on parlera un peu de la cuvée, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. J'ai apporté un petit quelque chose à déguster aussi avec. Donc Patrice, Laurent, Romain, le vin, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a un côté bonbon caché quelque part qui m'a surpris dans la première dégustation. Et c'est frais, c'est rafraîchissant. Comment vous le trouvez? Et qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Ben moi, je trouve qu'on est on est encore sur quelque chose d'assez riche quand même. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de maturité dans les raisins. Effectivement, c'est pas ça ressemble à aucun cépage. Auquel on est habitué. Alors si on veut s'accrocher à... Enfin moi, j'ai une approche du vin qui est pas dans cette espèce de recherche d'identité. Je suis plutôt un primate, moi. Je prends le plaisir là où il est. Donc là, je prends pas mal de plaisir. Je sais pas, ouais.
Un bon point, ça, déjà.
Ouf. non, mais voilà, je trouve qu'on a une maturité de raisin qui le rend très assez opulent, assez aromatique. Il y a un côté végétal aussi, ouais, assez marqué.
Florence, qui est toujours là de l'émission précédente, ajoute un truc. Vas-y,
avec Florence. Non, je
disais juste, il a un côté un peu herbacé, végétal. Quand on a goûté quelques vins un petit peu sur ces régions-là, aussi sur les Géorgiens, mais qu'on connaît plus en vin orange, qui ressort un petit peu. Ça m'envoie un petit peu en Géorgie, ça me fait voyager dans ce coin-là.
Totalement, mais je te rejoins parce que moi, c'est vrai que la première dégustation, j'étais presque vraiment que sur ces notes-là. Là, il s'exprime un peu différemment. Vraiment, ce vin, en fait, il m'a charmé parce qu'à chaque dégustation, comme la plupart des vins, hein, évidemment, mais peut-être encore plus celui-là. Et Jean-Baptiste, tu nous diras comment travaille le domaine et ça s'explique aussi par leur approche des choses. Ce vin n'a jamais les mêmes vibrations. C'est assez. Enfin, là, je découvre encore.
En fait, ce n'est pas le vin qui change, c'est toi.
C'est ça. Alors attends, je vais séance de psy, exactement.
Il y a les deux quelque part. Il y a
mais je suis convaincu.
Ouais, Jean-Baptiste est toujours là.
Souvenez-vous de Bruno Quenu. Souvenez-vous de l'échange avec Quenu. Ouais. Le vin est une rencontre. C'est un sujet.
C'est plus en fait l'énergie entre les différents participants de cette dégustation qui a un impact sur la vibration du vin.
Non mais Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous parler rapidement un petit peu de comment il vinifie et autres, parce que tout ça a un lien sur cet aspect vibratoire.
Bien sûr.
Le Berkitch.
Alors, là on est excellent en prononciation, moi ça me ravit, parce que comme ça au moins on fait honneur à ce vignoble, puisque c'est le nom de famille du vigneron qui s'appelle Josip Berkitch, et qui est un monsieur, soit dit en passant, assez exquis, comme beaucoup de Bosniaques ou de gens d'Europe de l'Est qui peuvent paraître assez froids de prime abord et qui en fait sont, sont tous des nounours incroyables. Avec une,
vu la photo, je confirme.
Oui, mais une volonté, une capacité à accueillir l'autre pour ce qu'il est, sans juger. Et on retrouve un peu ça dans ces vins, en fait. Quand, la première fois que je suis allé dans ce pays et que j'ai bu les vins, je me suis un peu mis à trembler parce que je trouvais déjà pas de... J'étais un peu décontenancé de pas trouver d'équivalent à ce que je pouvais avoir eu dégusté dans ma vie, puisqu'effectivement, on a toujours cette approche un peu de mémoire à tiroir où qu'on a besoin, inconsciemment ou consciemment, de faire des parallèles. Et déjà, j'y arrivais pas. Et puis, quand Leslie parle de vibration, je crois que c'est quelque chose dont j'avais pas conscience jusqu'à il y a peu de temps, mais maintenant, j'arrive à mettre des mots dessus. Mais effectivement, certains vins ont une énergie, des vibrations qui sont assez incroyables. Alors, peut-être que ce cépage qui est vraiment endémique de la Bosnie, le Gilapa, possède des propriétés énergétiques, mais je pense qu'au-delà de ça, les sols de granit, de calcaire brun sur lesquels le cépage est planté, plus le fait que le vigneron est un fondu de biodynamie. Alors, je ne dis pas qu'il court tout nu dans les vignes ou dans le chai, mais il n'est pas loin, quoi. C'est quelqu'un qui est vraiment toujours sur le fil du rasoir à chercher des équilibres entre tension, vibration, aromatique, qui, par exemple, sur cette cuvée, travaille uniquement l'inox avec un élevage sur les fines assez intense de 5-6 mois. Et en fait, on se retrouve avec un blanc qui change tout le temps. Quand on boit une gorgée, on est décontenancé, on sent que le vin, il fait un espèce de plongeon dans le corps. C'est assez incroyable. Moi, ça me met des frissons d'en parler. Et ce qui est cool avec ce genre de vin, c'est qu'en général, soit on aime, soit on n'aime pas. Et il n'y a pas vraiment de milieu. C'est-à-dire que c'est un vin qui, de toute façon, fait parler. Et ça, c'est chouette dans le vin, c'est que ça délie les langues, et peu importe qu'on soit un amateur éclairé ou un néophyte, on s'en fiche, en fait. L'idée, c'est qu'on va ressentir des choses avec ce vin. On va apprécier, on va pas apprécier, mais on va ressentir. Et je me rappelle, en riant, d'une dégustation avec Vincent Cochard, qui est le sommelier de l'Arpège, 3 étoiles, restaurant d'Alain Passard à Paris, et qui goûte le vin et qui, pareil, est complètement perdu. On a dû le regoûter 3 fois ensemble. Et puis finalement, il trouvait que les vibrations pouvaient aller très bien avec tout le côté végétal des légumes que travaille Alain Passard, et a mis une des cuvées sur la carte. Donc du coup, en fait, on est passé en l'espace de 2 heures de dégustation d'un « je suis complètement perdu » à « je fais un tour de table avec les autres, je goûte, je regoûte », etc. Et en fait, la finalité, c'était même pas de se dire est-ce qu'il va prendre le vin ou pas. La finalité, c'est que des échanges de chacun autour de la table, à chaque fois que quelqu'un donnait un mot nouveau, on avait l'impression d'apprendre quelque chose. Et chacun disait quelque chose de différent. Et c'était vraiment... voilà, c'est ce que ce vin me procure. Ça donne envie de parler.
Du coup, ça me donne envie de peut-être postuler à l'Arpège, parce que j'ai l'impression que ce que tu décris de Vincent, je l'ai vécu exactement pareil. Parce que quand j'ai dégusté pour la première fois ce vin bosniaque, ça m'a pris du temps, mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps, je l'ai coraviné plusieurs fois jusqu'à ce que je l'ouvre, en fait, pour essayer d'aller chercher plus loin et justement ensuite d'aller chercher dans les accords. Et c'est le seul, d'ailleurs, sur lequel j'ai pris autant de temps à la dégustation, et j'ai trouvé, et ce que je propose ce soir à l'équipe, c'est une...
Merci.
Avec plaisir, vous me direz ce que vous en pensez.
Ça marche très bien, en fait.
De l'avant,
je te laisse expliquer ce que tu nous as préparé.
Alors, c'est très simple, j'ai fait ça en 2 secondes et demie, c'est juste du fromage frais avec des petits pois écrasé et de la menthe.
Ah ouais, ça, il y a de la menthe. C'est vrai que la menthe résonne avec ce côté herbacé.
Exactement. Bah, en fait, moi, ce que j'avais vraiment eu, comme disait Florence au départ, c'était plutôt la partie très herbacée, en fait, très presque légumineuse. Et je me suis dit, je vais aller chercher ça dans le vin, puisque comme je ne le comprends pas vraiment, je vais aller essayer de le tirer encore un peu plus loin. Et ça permet de... Enfin, c'est surtout effectivement le petit pois, je trouve, qui marche ici, et la menthe pour aller rendre ce vin encore plus exubérant et se développer en bouche. Là, j'étais plutôt partie sur les arômes. La deuxième dégustation que j'ai faite la semaine dernière, là, j'ai senti le mouvement du vin. C'est pour ça que Et puis j'ai rencontré Bruno Quenu en parallèle. Alors peut-être que je suis allée chercher des trucs plus sur...
Dans un monde parallèle
aussi, t'as tourné la tête.
Je suis tombée dans un monde parallèle, effectivement. Mais je trouve
l'embrasse,
que
Bruno.
C'est une approche intéressante, en fait, de sentir le vin plus par la matière et par l'aspect un peu corporel, plus que par les arômes. Moi, j'ai toujours travaillé sur les arômes, sur les odeurs, parce que c'est ce qui me passionne. Et là, je me passionne pour la matière et l'entrée dans le corps. Voilà. Et ce vin, clairement, moi, ce que j'ai ressenti, c'est des mouvements dans la bouche. Tu disais, Jean-Baptiste, voilà, il tangue, il vibre. Moi, j'ai senti vraiment beaucoup de mouvements de matière en bouche, plus que l'aromatique que j'ai laissé un petit peu de côté.
Et ce qui peut parfois décontenancer pour corroborer le propos, c'est que du coup, une fois à l'ouverture ou quand on l'a ouvert depuis une heure, parce qu'en général, sur les fiches techniques, au début, je ne mettais pas besoin de carafer. Mais en fait, on se rend compte que c'est juste un élevage en inox, finalement, mais c'est un vin qui a besoin de s'exprimer. Et en général, plus on se sert de verre dans la bouteille, plus ça évolue déjà dans tous les sens. Mais,
encore une fois, tu évolues plus vite que le vin.
Oui, et lui, il a besoin de temps, en fait, comme beaucoup de grands vins. Alors, je suis personne pour juger si c'est un grand vin ou pas, mais il m'a procuré des grandes émotions. Et effectivement, ça fait partie de ce genre de vin, des fois, à qui on doit laisser du temps. Et c'est pas toujours évident, selon si on le sert à des amis ou au resto, etc. On n'a pas forcément toujours le temps. Et il y a des fois des petits risques d'éventuellement passer à côté. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que ça fait parler. Et Leslie, ton idée du petit pot avec la menthe, là, c'est génial. Patrice, parce que tout le monde peut le refaire à la maison, en fait. C'est ça qui est fou. Et c'est dans la simplicité qu'on se régale le plus, finalement.
Non, le cépage, donc, j'avais par extension, moi, ça m'évoque, mais c'est complètement égocentrique, éthocentrique. Ça me rappelle certains vermentinos de patrimoine sur les notes un peu eucalyptus végétal aussi qu'on peut avoir sur le vermentine. Parce que c'est un vin du Sud, en fait, hein, finalement. Enfin, par rapport à nos barycentres, c'est assez au sud de la Bosnie. Enfin,
On est un peu plus. Et puis en plus, on bénéficie un petit peu du courant de la mer Adriatique, hein, comme on est quasiment côtier.
Ça reste un cépage assez léger pour sa localisation et un peu maritime dans ses influences. Et justement, en dehors de ce cépage-là, est-ce qu'il y a eu dans le voyage globalement des cépages qui t'ont, que tu as découvert, donc des milliers, hein, mais est-ce qu'il y en a 3, 4, 4, 5 comme ça, en dehors du... Zilavka, que tu as découvert et pour lequel tu as eu des coups de cœur.
Complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a une frustration parfois quand on est vraiment en quête de cépages endémiques, quand on arrive sur les Amériques, parce que comme c'était colonisé à partir de 1500 et quelques, finalement, ils ont une sublime viticulture, mais ils n'ont pas de cépage endémique. Alors après, il y a le pays qui s'est développé naturellement là-bas, mais il n'y en a pas d'autres. Donc, on a aimé beaucoup de facettes des Amériques, mais pas pour les cépages endémiques. Et là où on se régale, c'est dans ce berceau qui va de la Méditerranée, en passant par chez nous, hein, jusque dans le Caucase, où on n'a pas assez d'un cerveau pour retenir déjà tous les noms de cépages qu'on rencontre. Les orthographier, c'est encore plus compliqué. Mais pour en retenir deux, trois, par exemple, et j'ai une pensée amicale pour mon amie Barbara Bacic, qui importe des vins avec sa société en France, l'Europe de l'Est, qui m'avait fait découvrir sur une petite île croate, l'île de Korčula, un cépage blanc avec trois consonnes, donc pas de voyelles, GRK, voilà. Le gurk. Et ça, par exemple, ça, c'est une vraie belle découverte. Des cépages comme ça, ou quand tu mentionnais tout à l'heure le vermentino avec son influence un petit peu saline, etc. Là, on retrouve ça dans ces cépages-là. On est aussi un peu décontenancé. La liste est longue. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cépages comme ça qui m'ont fasciné et pour lesquels on pourrait passer du temps. Et ils sont tous entre la Géorgie et l'Espagne.
Le croissant d'or. Le croissant d'or du vin, le croissant de.
Même le couscouzou, par exemple, je me rappelle, couscouzou en Turquie. Oh, mais c'est pas rouge, fantastique, avec des trémas imprononçables dessus. Mais bon, voilà. Il y en a plein comme ça.
Est-ce que.
Ce qui fait la richesse.
On imagine qu'il y a une diversité immense. Est-ce qu'on peut aussi donner un point commun? Est-ce que ce qu'apporte le vin dans les différentes cultures, la façon de le boire, de le partager, de le considérer, est-ce que tu peux tracer une ligne, un point commun que tu aurais trouvé sur ces 88 pays? Ça paraît compliqué, mais est-ce qu'il y a quelque chose...
C'est une très bonne question. Très, très bonne question qu'on m'a jamais posée.
Donc je ne l'ai pas préparé.
non, mais Oh, c'est bien de pas se préparer. Mais
écoute, dans notre, dans notre préparation, on l'avait noté comme est-ce que le vin provoque la même convivialité dans les différents pays. Voilà, par exemple, en, c'est en une fait, piste. C'est ça que tu allais répondre. Bien
sûr. Oui, oui, parce que en fait, on se rend compte que la moitié des pays du globe, à peu près aujourd'hui, sont producteurs à plus ou moins grande ou petite échelle, mais que semble-t-il, même en Corée du Nord et dans d'autres dictatures, je veux dire, on boit du vin dans tous les pays du globe. Et il m'est arrivé dans ma vie de faire des pays autres que des pays viticoles, donc je crois en faire à peu près 110 de mémoire. Et du coup, on se rend compte que même dans des pays non producteurs, le vin est vraiment au centre de la convivialité. À l'inverse, un fil conducteur sur l'excentricité, par exemple, assez rigolo, c'est qu'on se rend compte que des gens qui ont fait fortune, parfois, dans des pays qui ne sont pas forcément prédestinés à faire du vin, vont avoir envie socialement de planter un vignoble. Parce que d'avoir du vin, c'est quand même quelque chose qui fait bien, parfois, avoir une belle cave. Et si en plus, on peut mettre son nom sur une étiquette, pour certaines personnes dont, voilà, qui ont peut-être un peu plus besoin que d'autres d'ego, mais chacun fait ce qu'il veut, le vin est vraiment un signe de réussite aussi. Ça, c'était rigolo. Et à l'inverse, pour le côté vraiment humble, on a goûté parfois des vins, je me rappelle en Éthiopie, on était assis en tailleur par terre, on avait enlevé les chaussures, on était pieds nus, et puis on avait une jolie petite paillasse, donc on aurait pu manger à même le sol, hein, quasiment, tellement tout était propre, et on se lavait les mains dans une petite bassine en plastique avant de passer à table, et puis après on partageait comme ça des mets entre convives, on était assis tous en cercle avec la nourriture au centre, le vin au centre, au milieu de tout, et en fait tout était question de partage, d'échange, on avait quelques morceaux de galette de maïs qui étaient devant nous, et puis après sinon il fallait aller piocher avec la galette de maïs dans les différents plats, ça nous servait de petite assiette, et quand on se retrouve dans des pays comme ça où on se rend compte qu'au final ils produisent à peu près 10 millions de bouteilles de vin, que tout est consommé localement et que c'est pas forcément que les gens riches qui boivent, on apprend, on écoute, on regarde et on se dit que finalement le vin qui est finalement que du jus de raisin fermenté, hein, faut jamais l'oublier, il est plus fort que nous quelque part. Voilà, ça permet de rester humble et les pieds sur terre.
Est-ce que tu as des souvenirs de pratiques viticoles un petit peu originales, très en dehors des sentiers battus, soit sur la vinification, sur...
Alors en soi,
où sont les punks du vin?
Ben, en fait, les punks du vin, ils sont dans le Languedoc, quoi. En fait, c'est ça que.
Ça, on le savait.
Non, mais en fait, on n'a rien inventé et c'est comme quand on me dit, mais il t'est arrivé des trucs de fou dans l'aventure et tout. En fait, non. Donc les gens sont un peu déçus. Ils auraient bien aimé qu'on se fasse arracher un œil ou je sais pas, mais des trucs croustillants. Et en fait, la viticulture, elle est adaptée bien évidemment en fonction des latitudes et on se rend compte que plus on se rapproche de l'équateur, plus le cycle de la vigne est court et donc plus il faut trouver des subterfuges. Mais en gros.
En termes de matériel,
reste la même. En termes de matériel,
quand même, tu as dû voir des choses.
De taille, mais ouais. Oui, mais après, même si on invente une machine par-ci pour pilonner des caillasses ou une machine par-là pour essayer de réduire un peu l'humidité ou qu'on pose parfois des bâches en plastique sur les sols, je pense aux pays scandinaves comme la Suède ou la Norvège pour avoir un peu plus d'ensoleillement et faire un effet de serre sur les pieds de vigne. À part ces anecdotes-là, il n'y a pas vraiment de révolution. On peut, par exemple, penser à toutes ces éoliennes qui sont installées dans le vignoble de Québec pour prévenir des gelées, ou ces bâches un peu géotextiles, mais il n'y a pas de vraie révolution. La plus belle révolution que j'ai vue, qui était plutôt une régression avec mon photographe de l'époque, c'était, et d'ailleurs c'était super à prendre en photo, c'était en Éthiopie, où il y avait des fouettards dans la vigne. Alors on les a appelés les fouettards parce que c'était un métier un peu nouveau pour nous. Il faut s'imaginer que là-bas, acheter des filets, ça coûte une fortune et que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace parce que beaucoup d'animaux peuvent les dégrader et que la main d'œuvre est pas chère du tout. Et donc ce qu'ils ont trouvé comme subterfuge à partir de la véraison quand les oiseaux commencent à lorgner les baies pour se faire un festin, c'est de mettre des travailleurs sur des échafauds tous les 200 mètres à peu près, avec un fouet dans la main. Et du coup, pendant la journée, quand il y a les oiseaux qui s'approchent, on a les travailleurs qui claquent l'air avec leur fouet. Et ça, c'était vraiment impressionnant à voir. Et c'était assez unique en son genre. Et c'était marrant comment on avait réussi à adapter, enfin, à contourner une problématique, parce que du coup, il y avait un taux d'emploi qui était assez élevé, puisqu'il y avait beaucoup de personnes employées. Donc, il y avait vraiment un côté bénéfique à ça, et ça, c'était assez intelligent. Donc là, j'avais bien aimé ce côté un peu régressif.
Page 131 du livre.
Voilà, ça fait l'objet d'une très belle photo. En effet, on peut dire peut-être un mot sur ce livre qui est à la fois un atlas, un carnet de voyage, un livre, un beau livre aussi, comme on dit, avec des photos sur chaque territoire, pays visité. On a 2, 3 ou 4 pages avec une vision de l'encépagement, quelques stats, un petit profil, un portrait d'un vigneron, de très très belles photos. Voilà, c'est vraiment un document.
L'histoire, le sol, la pluviométrie, c'est très complet.
C'est assez complet, c'est-à-dire que c'est à la fois très frustrant parce qu'il y a 90 pays, mais bien on n'a que 2-3 pages par pays. Mais en fait, ces 2-3 pages sont quand même assez denses. Et ça donne envie d'aller creuser, hein, mais voilà, lire des choses sur l'Éthiopie, c'est assez fabuleux.
C'était la complexité de l'ouvrage, et c'est bien résumé que de dire que c'est un espèce d'hybride entre l'atlas, le beau livre et l'encyclopédie, parce que qu'est-ce qu'on fait de 4 ans de voyage et d'autant d'informations ? À un moment donné, il faut les poser sur le papier. Donc il y avait beaucoup de possibilités, du roman littéraire à la BD, en passant par un atlas en plusieurs volumes. Et puis à un moment donné, il faut quand même sortir avec un premier opus. Et l'idée, c'était d'essayer de donner un prisme de ce monde du vin à 360 degrés. Donc essayer d'avoir un chapitre par pays producteur de vin. Donc assez fier de dire que c'est quand même le seul livre au monde aujourd'hui qui a un chapitre par pays producteur, mais tout est mis de côté. Voilà. Et après, beaucoup de frustrés, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de témoignages. Et je comprends les gens, parce que parfois, sur des pays beaucoup plus connus, on fait l'impasse sur les régions très connues. L'idée était de proposer dans l'ouvrage des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On s'est dit, par exemple, avec l'éditeur, il n'y a pas forcément besoin de mettre un chapitre sur Bordeaux ou l'Alsace, parce que bien qu'on soit très amoureux de ces régions-là, elles sont déjà écrites et décrites dans 101 ouvrages merveilleux. Donc l'idée, c'était de proposer de la matière nouvelle. Donc on s'est amusé pour la France, on a été sur les terrils dans le Pas-de-Calais, on a été dans les côtes de Toul. Voilà, on a essayé de sortir un peu de notre zone de confort, mais dans une deuxième version qui verra sûrement le jour l'année prochaine, on étoffera et on essaiera d'apporter plus de pages pour là vraiment s'imposer avec un ouvrage de référence où on aura à la fois la satisfaction pour ceux qui veulent des infos sur tout ce qui est connu de les trouver, et puis on gardera la partie exotique. Donc ce sera un bouquin sûrement un peu plus gros.
J'ai une question assez importante que je t'ai jamais posée. Ils sont comment les vins du Pas-de-Calais?
Alors les vins du Pas-de-Calais, il y en a très peu.
Oui.
Il y a un vignoble qui est le vignoble de référence aujourd'hui. Ils sont 4-5 projets associatifs, mais ça reste des petits vignobles sur les terrils. Et en fait, on y plante du chardonnay sur des anciennes
charbonne,
mines de... Exactement. Des anciennes mines de charbon. Et franchement, leur jeu de mots avec le charbonnet, donc qui est le nom de la cuvée et le nom du vignoble, est extrêmement bien trouvé.
Il faut savoir que c'est du marketing, pas un vin qui est
facile à... c'est pas évident à se procurer une bouteille de charbonnet. Ils en produisent que quelques centaines. Et ils font absolument pas d'argent dessus, puisqu'ils le vendent 50 euros la bouteille, mais ils font pas de sous. Et par contre, c'est déconcertant. Il faut goûter au moins une fois dans sa vie un chardonnay qui a été planté comme ça sur un terril. Ça fait quelque chose de presque un peu crayeux. Moi, j'ai trouvé mine de crayon. Okay. C'est
psychologique ou c'est réel bon. Ou le minéral passe vraiment dans le vin?
Ah non, mais à un moment donné, on se pose et puis on devient perché, en fait, quand on est un geek du vin ou quand on est un peu rêveur. C'est-à-dire qu'on a l'impression de percevoir des choses, mais c'est comme pour la musique ou c'est comme pour l'art. C'est très subjectif, il n'y a que nous. Et puis à côté, les gens, on leur en parle et puis ils nous regardent comme s'ils étaient effrayés parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce qu'ils racontent, quoi ?» Donc moi, je pense que c'est ça. Ma vie n'est faite que de ça.
Donc le monsieur fait le tour du monde et vous lui parlez des vins du Pas-de-Calais.
On a un deuxième vin.
Voilà, on a un deuxième vin. Leslie, cette fois, c'est un rouge.
Alors là, on part en Roumanie, donc on est toujours dans l'Europe de l'Est, domaine Cattleya avec la cuvée Perfect Simplu, un peu plus facile à prononcer. Une histoire sympa aussi à raconter, puisque le vigneron est un Français, tu nous en parleras plus, Jean-Baptiste. Et on est sur les IM 2018, toujours. Contrairement à la première cuvée, je laisserai l'équipe me parler du vin d'abord. parce qu'après sinon j'influence trop avec tout ce que je raconte.
Alors c'est... Ah, puis c'est toujours sympa d'avoir des témoignages comme ça et des avis partagés. Le vin, ça doit être ça. Donc,
Est-ce que tu veux nous parler un peu de Laurent
Le vigneron,
le vigneron.
Allez, pendant qu'on déguste et qu'on cherche nos mots.
Voilà.
Allez, bah, en fait, derrière chaque vin, il y a quand même un vigneron ou une vigneronne. Ça, c'est le plus important, il ne faut jamais l'oublier. Et après, il y a des fois des vins un peu plus industrialisés, mais en tout cas, pendant le projet, on s'est concentré vraiment sur les vins de domaine et avec des gens derrière. Et Laurent fait partie de ces belles rencontres comme ça où on est content quand on voyage comme ça dans des pays d'un seul coup de trouver quelqu'un qui parle français. Ça repose un peu. On a l'impression de se sentir un peu chez nous. En plus, en général, il a toujours un bon plan avec un morceau de fromage dans le frigo. Donc, on a l'impression de reconnecter un peu avec les racines quand on est en mal du pays. Et Laurent, c'est une très belle histoire parce qu'on a à peu près le même âge. Il est né en 1980. Il a fait ses études à Bordeaux en viticulture et œnologie. Et puis un jour, il a fait son stage dans la région en Olteni, en Roumanie. Et il n'est jamais revenu parce qu'il est tombé amoureux du terroir, il est tombé amoureux d'une femme là-bas. Et puis il a fait sa vie. Et en fait, la Roumanie, c'est un pays, c'est un grand pays d'ailleurs, c'est même un grand pays dans les deux sens pour le vin. On ne sait pas forcément, mais en termes de surface et de production, la Roumanie, c'est quand même le cinquième plus gros pays producteur d'Europe. Devant l'Allemagne, devant le Portugal, donc c'est un gros acteur dont on n'a pas forcément bonne presse depuis la France parce que on a beaucoup souvent d'a priori de préjugés, mais Laurent, voilà, il a trouvé un terroir, il a analysé les sols, il fait un travail extrêmement intelligent, par exemple sur la cuvée que vous êtes en train de goûter, qui est un cépage endémique qui s'appelle la Feteasca Niagara. Il a trouvé que ce cépage-là, qui était assez juteux, ne méritait pas forcément beaucoup de bois. Donc ça fait partie de ces vins-là où le vigneron a trouvé son alchimie avec 85% de mémoire de cuvinox et seulement 15% de bois. Parce que le terroir et le cépage suffisaient à faire quelque chose de grand. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire de Laurent pour synthétiser. Il est associé à deux autres Français qui eux, vivent en France. Et ils produisent des vins depuis quelques années maintenant, depuis 2007 de mémoire. Et ce qu'ils font est grand, moi je trouve, c'est super, à des prix très abordables. Et c'est quand on découvre des petites pépites comme ça qu'on se doit, qu'on a envie du moins de les partager, d'en faire profiter un maximum. C'est pour ça aussi qu'on les propose.
Et les deux vins sont en vente sur le site, c'est ça ?
Oui.
Alors, on parlera de la partie marchande peut-être à la fin. Qu'est-ce que vous diriez de ce vin ? C'est très très mûr le raisin. Là.
C'est très exubérant. Moi, au début, j'avais un côté, je sais pas, fleur exubérante, pivoine, chose de ce type-là.
Florence.
Oui, mais la couleur, ne serait-ce que la couleur, l'extraction. Enfin, on a quelque chose de vraiment très 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 soutenu. On est sur un vin noir. Enfin, moi, je ne sais pas, ça m'évoque un vin noir. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette espèce de densité, une espèce d'opacité, aussi bien au niveau visuel qu'au niveau de la sensation en bouche. Enfin, moi, c'est ce que je ressens.
J'avais des petits fruits rouges, mais il y a le côté framboise, il y a le côté un peu myrtille, mais il y a aussi le côté un peu mûr, les petites mûres de bord de chemin de campagne, un peu sec comme ça. Ça fait un petit peu comme si on avait fait sa récolte de petits fruits rouges et qu'on se préparait à faire la gelée et qu'on mélangeait un peu tous ces petits fruits et qu'on les goûtait sans le sucre. Le sucre. Et avec un côté un petit peu fumé, un petit peu sauvage qui me rappelle le Carignan. Voilà, c'est ce que j'avais.
Oui,
pas mieux.
je vais changer les fiches techniques.
Les images sont toujours
saisissantes. Non, parce que la perception est bonne, mais c'était beau, ouais, c'est très beau. Et c'est un cépage qui a naturellement ce côté un petit peu lardé, fumé. Et il est arrivé certaines fois où on ouvrait des bouteilles de ce vin, avec son côté légèrement réducteur à l'ouverture comme des syrahs, qui puissent faire penser à des syrahs, par exemple... sur la partie sud de Saint-Joseph, la partie un peu granitique, où des fois le vin comme ça, l'ouverture a ce côté un peu presque sauvage, et c'est assez bluffant, vraiment.
Moi, si, pour parler un petit peu de mon expérience de dégustation de la semaine dernière, ah oui, je vous invite aussi à goûter avec du bacon. pour justement aller chercher dans cette trame un peu fumée. Le vin est extrêmement chaleureux, en fait, chaud, chaleureux. Et j'ai eu l'image du sourire d'un don Juan. Vraiment ce côté
D'accord.
Assez charmeur.
Ça ne nous parle pas trop, excuse-nous.
Peut-être Florence. Un vin très charmeur. Je ne sais pas s'il est aussi, ça passe ou ça casse que notre première cuvée, mais il peut paraître un peu spécial, justement par cette opulence, par ce côté très noir, très, très chargé. Mais je trouve qu'il est intéressant parce qu'il est assez addictif. Et moi, je retrouve une note, en fait, qui est celle qui est présente dans mon parfum, d'ailleurs, qui s'appelle l'ambroxan. L'ambroxan, c'est une note qui est à la fois métallique, un peu cuirée, un peu animale. Et c'est ce type d'odeur, en fait, qui peut rendre fou. et en fait, ce vin me fait cet effet, voilà.
Alors, ouais, c'est... À ne pas mettre entre toutes les mains.
Entre tous les verres.
En fait, la sensation est étrange un peu pour moi parce qu'il me rappelle la seule fois où j'ai bu un vin suisse et qui m'a complètement déstabilisé. Il était dans ces notes-là, ultra mûres. Et voilà, moi qui, j'avoue, me déstabilise un petit peu. Je ne me vois pas boire ça ou servir ça à table. J'aurais l'impression qu'on va me dire, mais il est bizarre ton vin, non ? Et alors que ça fait partie, la diversité des...
Oui, il y a un petit côté exubérant.
Des goûts. Exubérant dans le rouge.
De toute façon, il faut choisir les vins en fonction de son audience.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Mais surtout, je pense qu'il faut aussi se mettre un petit peu à la place de la population roumaine. En fait, il faut voir comment ils vivent, comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent. Il y a beaucoup de viande en sauce, beaucoup du chou farci, des choses un petit peu lardées comme ça.
D'accord, terroir.
Exactement. En fait, ils ont besoin d'avoir des vins qui soutiennent un petit peu leur plat. Et justement, moi, j'ai été en Roumanie, j'ai eu cette chance il y a quelques années. Alors, pas du tout de façon dégustation, etc. Pas de route des vins, mais... dans chaque restaurant, l'équivalent du trou normand là-bas, c'est des shots de palinka. Palinka, c'est des eaux de vie principalement de prunes, mais ça peut être d'autres fruits. C'est vraiment la boisson nationale dès l'entrée. Donc ensuite, pour tenir là-dessus, on a besoin d'un vin qui s'affirme aussi. Donc, et d'ailleurs, pour la petite histoire, je vais essayer de prononcer, je ne sais pas si Jean-Baptiste, tu pourras m'aider là-dessus, mais les palinka les plus alcoolisés, ça va jusqu'à 70%. Donc on est presque en Russie avec les...
On boit et on soigne avec.
Exactement.
On tue également.
En fait, exactement, ça a un nom. Ça s'appelle Keristes Tiagato. Ça s'appelle défenseur de barrière. Défenseur de barrière. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, derrière, faut savoir que c'est aussi des vins qu'on va servir sur des plats assez, assez costauds.
Jean-Baptiste.
En fait, vas-y. Ouais, juste pour finir sur le vin, ce qui est assez rigolo, c'est que, en fait, quand on voyage, à un moment donné, on déguste, il y a toujours cette part de subjectivité dans la dégustation. Alors, on essaie d'être le plus pro possible et de déguster sur ordinateur après avoir visité, etc. Mais du coup, on n'est jamais sûr à 100%. Donc, on va déguster toujours une deuxième fois après en France pour corroborer ou pas la première dégustation. Et malgré ça, le jour où on commence à distribuer, on se lance un peu dans le grand bain aussi et c'est se mettre un peu tout nu de se dire, tous ces coups de cœur qu'on a eus, à un moment donné, on veut les partager avec le grand public. Et puis après, on prend les avis de chacun parce que ce qu'on a aimé, nous, n'est pas forcément ce que les autres vont aimer. Et je ne savais pas comment positionner les vins ni comment définir un top 3, un top 5, des rouges, des blancs, etc. Il se trouve aujourd'hui, ça changera sûrement demain, mais que ce Perfect Simple-là est notre vin numéro 1 en rouge. Des ventes, des avis. Alors, on a des fois des avis qui partent dans tous les sens et c'est très riche d'ailleurs. Mais je ne sais pas expliquer pourquoi. Mais ce vin-là plaît beaucoup, semble-t-il. Donc, c'est assez rigolo. Voilà.
Alors, si on parle un peu justement, tu nous y amènes sur le dernier étage de la fusée. Alors, je ne sais pas si c'est le dernier, mais le dernier en date, c'est le plus récent. Donc, la mise en place de ce site marchand, Wine Explorers. On y trouve donc les vins évidemment que Leslie a apporté ce soir et pas mal de vins qui viennent de cette région-là, de l'Europe de l'Est. On est, corrige-moi si je me trompe, mais on n'a pas encore, on n'a pas de vins aussi lointains. On a parlé de Gabon, d'Éthiopie, de choses qui sont
bientôt
plus exotiques. Voilà, c'est quoi ? C'est un choix de départ d'essayer de de séduire avec des vins qui sont plus proches de chez nous, ou c'est des questions de logistique, c'est des choix éditoriaux?
C'est vraiment logistique, c'est-à-dire que la finalité à terme, sur d'ailleurs du court moyen terme, hein, le plus rapidement possible, c'est de proposer l'offre la plus diverse possible, au moins en termes de pays et de régions viticoles. Sauf que même si l'équipe grossit rapidement, ça reste quand même un sacré boulot chronophage, et que Rome s'est pas faite en un jour. Donc on s'est dit, et si on commençait par l'Europe, effectivement, comme tu le soulignes, justement par souci logistique, parce que du coup les vins arrivent un peu plus vite que quand ils sont transportés par bateau, par exemple, et qu'ils doivent faire plus de kilomètres et traverser les continents. Mais très rapidement, là, pour le début d'année, un petit scoop pour les auditeurs, on va avoir des références un peu plus exotiques. On va avoir la Palestine qui va rentrer, ça va être quelque chose de complètement dingue. On va avoir le Maroc, on va avoir le Liban, on aura très probablement la Suède, la Slovénie. Et puis, au fur et à mesure des mois, on va aller sur du plus exotique. On aura de la Tasmanie, on aura de la Patagonie. Et tout ça, c'est prévu, c'est dans le calendrier, mais ça va se faire au fur et à mesure. Parce qu'on ne fait pas qu'importer. En fait, à chaque fois qu'on importe un domaine, on crée aussi une vidéo derrière. Et la vidéo, elle prend beaucoup de temps. Elle nécessite que, quand on refait faire des images aux vignerons, on soit sur une période de printemps-été pour avoir de la végétation. Donc tout ça apporte de la complexité.
Chaque bouteille est stickée avec un QR code qui permet d'accéder à cette vidéo, justement. Sur la question du transport et de l'importation sur des si longues distances, justement, est-ce que vous avez le souci de la façon dont les vins sont transportés? Tu parlais de bateaux. Est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des conteneurs réfrigérés? Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir des vins qui arrivent dans un état...
Le risque zéro n'existe pas, mais on a l'avantage d'avoir... Alors, il y a une double préoccupation. C'est à la fois que les vins arrivent et après soient conservés dans les meilleures conditions. Et la deuxième préoccupation, dont on pourra éventuellement en parler tout à l'heure, c'est d'avoir au moins une empreinte carbone neutre pour faire un business vert. Déjà, sur la partie voyage de 4 ans... pour rembourser à la planète les quelques kilomètres qu'on a fait en avion et en voiture. Mais les vins, en fait, on a eu travaillé pendant tout le projet avec ce gros partenaire que je mentionnais tout à l'heure, DB Schenker, qui est le deuxième transporteur mondial, et avec qui on a appris énormément de choses, notamment comment faire en sorte que les vins soient le mieux conservés pendant les voyages. Donc parfois, ça nous coûte un peu plus cher quand on fait, par exemple, par bateau et conteneur, d'avoir des conteneurs frigo, par exemple. Mais avec des conteneurs frigo, par exemple, on est sûr que la température du vin, elle est contrôlée du point de départ jusqu'au point d'arrivée, qu'il n'y a pas de variation pendant le transport et que peu importe la durée, le vin est conservé dans les meilleures conditions. Et ça, après, on l'applique aussi à notre chai dans lequel les vins sont stockés, puisqu'on est dans, pour le coup, on est dans le Médoc, donc on a pris une région viticole connue où on stocke chez un très bon partenaire où, pareil, on a des températures contrôlées qui sont vérifiées plusieurs fois par jour. Donc, il y a vraiment cette volonté de faire en sorte que le produit qui part du domaine, quelle que soit la distance qui nous sépare, fasse en sorte que le vin arrive dans les mêmes conditions. Ça, c'est fondamental.
Sur le choix des domaines, j'ai peut-être raté un épisode, mais il y a toujours une recherche du bio, de la biodynamie. Effectivement, le vin bosniaque était clairement en biodynamie, de ce que j'ai compris. Mais la philosophie que tu avais en choisissant les domaines, en allant les visiter, c'était déjà, il y avait une présélection.
Aujourd'hui, je précise juste, aujourd'hui sur le site, on n'a pas tellement la présence du label bio sur toutes les bouteilles. Alors tu vas peut-être nous dire si c'est...
Oui, mais c'est simple en fait. C'est parce qu'il y a beaucoup de pays sur lesquels administrativement, c'est bien pas sûr. Possible. De deux, parce que pour d'autres, par exemple, si on va en Bosnie-Herzégovine, faut pas parler de la paperasse administrative aux vignerons, ça les met un peu en boule, quoi. Il y a des pays comme ça où c'est très 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 compliqué. Donc par exemple, le vignoble en Bosnie-Herzégovine, en fait, si vous voulez, moi j'ai été dans tous les vignobles, et l'idée de faire des vidéos aussi derrière, c'est de dire, non seulement moi je l'ai vu de mes propres yeux, mais en plus via les vidéos, je vous le retranscris. exemple concret de notre domaine en République tchèque, qui est juste en viticulture raisonnée, mais qui est au moins sur un degré de bio, voire plus. Quand on voit les photos, enfin les vidéos, la vidéo du domaine, qu'on voit ces rangs de fleurs avec les abeilles dessus entre les rangs de vignes, à un moment donné, ça parle pour soi. C'est bien mieux qu'une certification, en fait. Et c'est là la complexité aussi. Oui, ça prend du temps. Il faut faire comprendre aussi aux consommateurs, et c'est normal, c'est notre travail, que parfois la certification n'est pas là, mais que les vins sont bien mieux travaillés des fois que des vins en bio. On ne va pas rentrer dans le débat, mais on sait que par exemple, donc, il y a des charges du bio, on a plein de trucs autorisés qui ne sont pas forcément funky pour la terre. Mais la démarche qu'on avait, c'était de dire, voilà, pourquoi le bio ? Pas parce que c'est tendance, mais parce que moi, je suis assez sensible aux maux de tête, par exemple, et que dans tous les voyages que j'ai pu faire, je me suis rendu compte à chaque fois que plus le vin était sain et moins le vin était traité, et plus la baie de raisin était respectée, plus la buvabilité derrière me plaisait. À l'inverse, parfois, j'avais des goûts métalliques, je suis très sensible à ces goûts-là, qui m'empêchaient littéralement de déguster ou qui me mettaient des maux de tête pendant plusieurs jours. Donc, en fait, ça s'est fait aussi par ce côté sain, naturel. On ne rentre pas dans... des vins très nature déviants avec de la brette par exemple, etc. Mais on a toujours cette démarche de proposer le produit le plus sain, et en fait c'est tout simplement parce que le vigneron ou la vigneronne derrière a déjà cette démarche là donc nous, notre cahier des charges, il est simple, c'est chaque vigneronne ou vigneron qu'il y a derrière est une ou un ami. Déjà, c'est non négociable, ce sont que des gens avec qui on a lié des liens d'amitié, avec qui sont déjà venus en France chez nous, etc. Donc, avec qui on a une vraie relation de confiance. Derrière, ce sont que des petits domaines, donc ça veut dire qu'on peut contrôler et qu'on sait que la production, elle est vraiment qualitative. Et de trois, ce qu'on disait à l'instant, c'est que ce sont des domaines qui sont vraiment tournés vers la nature et qui sont respectueux de ce qu'on nous offre.
Je voudrais juste rappeler aussi que parfois les maux de tête, c'est lié à la quantité.
On a vu effectivement sur le livre cette photo du domaine en République tchèque. Il est clair, effectivement, à force de voir des images et de voir des vignobles, qu'on sait plus ou moins quand même reconnaître une vigne qui est chimiquement ravagée et une vigne dans laquelle peuvent pousser quelques fleurs. Et voilà, on a plus, nous aussi, une tendance à préférer la deuxième que la première. Tu as mentionné quelque chose qui m'interpelle. Comment tu peux envisager d'être neutre en termes carbone après avoir pris l'avion autant de fois et en proposant, je vais être volontairement provocateur, mais en proposant d'importer des vins du monde entier. Comment tu peux prétendre à une neutralité carbone ?
En fait, on a l'avantage d'avoir un produit qui est hyper simple au niveau carbone, en fait. C'est-à-dire que déjà, sur notre empreinte à nous, on l'a calculée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec des outils très bien faits d'ailleurs, on sait calculer exactement combien on dépense. Et en fait, nous, on s'est amusé avec mes photographes pendant le projet, j'en souris, à faire plein de calculs de chiffres comme ça, c'était assez rigolo. Alors des fois, c'était un peu fastidieux parce qu'il faut toujours le faire, il faut s'y astreindre toutes les semaines. Mais du coup, on avait, parmi tous nos kilomètres, j'ai le tableau aujourd'hui où je sais exactement combien de kilomètres on a fait en avion, en voiture, en taxi, en autobus, etc.
Et
je sais combien de kilomètres on a fait en tuk-tuk ou en pirogue, etc. Et du coup, on a du coup le bilan. Et pour compenser dans l'autre sens, en fait, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Une qui me plaît bien, c'est pas une solution de facilité, c'est parce que j'ai rencontré l'homme, c'est avec la fondation de Yann Arthus Bertrand, où tout simplement on va aider à reforester, parce que moi je crois beaucoup dans l'arbre, dans l'apport d'oxygène, etc., et que on sait qu'en replantant tant d'arbres, on va au moins annuler déjà le bilan carbone qu'on a. Et puis sur la partie business actuelle, pour répondre à ta question qui est absolument légitime, aujourd'hui, déjà le vin en tant que tel, toute la bouteille, y compris le bouchon, sauf quand c'est un type d'aggloméré, mais sinon, tout est recyclable et c'est extrêmement facile à recycler. Et d'ailleurs, pour le verre, on a, chaque consommateur, ce réflexe d'aller toujours mettre la bouteille dans le tri du verre. Donc sur la partie... Après, une fois que le vin est chez nous, entre le carton qui est recyclable, la bouteille, l'étiquette en papier recyclé, tout le produit est sur un process de recyclage et de produits qu'on va réutiliser. Et après, nous, sur la partie des importations, c'est pareil. On va calculer exactement combien on importe. Et là, on est sur des démarches, donc ça, c'est un scoop aussi, hein, c'est en off, mais on est en train de passer sur les certifications, vert. Alors, on ne s'amusera pas à communiquer à grande échelle dessus, on le mentionnera.
Bah, je viens, pas des grosses campagnes trop tard, de com. Trop tard, c'est la grande échelle, là, ça y était dans
des millions de spectateurs, enfin d'auditeurs, pardon, des Oups. Millions d'auditeurs.
Oups, mais il ne faut pas me chercher aussi quand on me pose des questions. et du coup, non, mais c'est une volonté vraiment importante parce que quel que soit le business qu'on fasse, le vin, ça reste de la niche. Les vins du monde, c'est encore plus de la niche. Donc, tout ça pour dire que je nous souhaite le meilleur du succès, mais ça ne restera pas ça fera pas partie du CAC 40. Et pourtant, même à notre petite échelle, on doit être conscient de la planète. Et si, après avoir voyagé pendant 4 ans, rencontré autant de choses, vu autant de choses émouvantes, etc., je n'avais pas une sensibilité pour essayer au moins de faire en sorte que notre business soit vert, je pense que je serais passé à côté de quelque chose. Donc, je vous rassure de ce côté-là.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Ancelot pour ce voyage, pour ce livre, pour la découverte de ces vins. Évidemment, j'invite chacun à aller voir ce bouquin en premier lieu, Wine Explorers. On apprend quand même énormément de choses. Ça se fait très facilement parce que voilà, on l'ouvre à n'importe quelle page et puis on se retrouve dans un pays proche ou lointain. Et puis voilà, par le prisme du vin, on découvre des choses et puis des gens. Voilà, tout ce qu'on aime dans le l'amour du vin et les rencontres qu'il occasionne. Merci Leslie Brochaud de mettre d'accord, partenaire de cette aventure où tu représentais ce soir Jean-Baptiste et puis au quotidien vous travaillez ensemble sur la promotion.
Leslie est notre bras droit pour toute la partie communication événementielle qu'on est en train de développer et juste pour le mot de la fin, merci à vous trois pour votre temps et puis pour ce beau moment de partage, c'était très agréable.
Ben, c'est sympa, écoute, plaisir partagé. Voilà, ben, on va suivre un petit peu les aventures de Wine Explorer. On va aller regarder sur le site quelles sont les nouvelles destinations qui s'y référencent et pourquoi pas reparler un peu de ce projet parce que c'est vrai qu'on pourrait parler quand même pendant des heures avec des vignobles ici.
Et puis il n'est pas bavard.
Et là, il n'est pas bavard, non, c'est vrai tout, qu'il n'a pas beaucoup de mots, il cherche ses mots. Donc au plaisir Jean-Baptiste de te voir.
Au plaisir, merci Jean-Baptiste.
Peut-être puis, par ici.
Mais encore une fois,
spéciale dédicace pour avoir fait passer Kings of Leon pour un groupe de pop sur Radio Pays Basque, je trouve ça assez fort.
Mais c'est parce que je ne peux pas dire ce que j'écoute, comme ça qui ne sont pas écoutables. Mais en tout cas, chaque vin est un voyage et on a voyagé deux fois ce soir. Donc voilà, l'évasion, c'est tous les jours.
Merci beaucoup, on va finir les bouteilles. Merci à vous de nous écouter, d'écouter la...
Hein.
Tout à fait, il est déjà dépassé, on a des attestations. Merci de nous écouter, suivez-nous sur les réseaux sociaux, on va poster quelques photos de ces vins, quelques commentaires autour de Wine Explorer. J'ai un merci tout particulier à faire à Emma Chevalier, notre stagiaire journaliste. Oui, on a l'impression d'être un grand média quand des élèves en journalisme vous proposent de faire un stage chez vous, ça flatte un peu notre ego. Mais surtout, c'est l'occasion d'une belle rencontre, de celle du genre que le vin occasionne. Donc, merci Emma d'avoir participé à la préparation de ces émissions et à leur promotion dans les jours qui viennent. On se retrouve, comme toujours, dans une paire de semaines avec de nouveaux thèmes qui sont encore en préparation, en discussion. Le monde du vin est un univers infini dans lequel on trouvera toujours des choses à raconter. À très bientôt. Salut Laurence,
merci,
salut Patrice, salut Leslie et salut Florence.
Ciao.
Salut.
Bye bye.